VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, au micro Morgan Guiriec et Anne Albertson. Bienvenue à l'écoute de cette édition du mardi 2 février 2016. À la une ce matin,
présidentielle américaine, les primaires ont débuté hier dans l'Iowa. Victoire de Ted Cruz chez les Républicains.
L'Union africaine renonce à envoyer une force au Burundi. Des réactions dans notre magazine.
Importante saisie de cocaïne en Mauritanie.
En Guinée, vivre au-delà de 60 ans est trop souvent synonyme de marginalisation. Reportage à suivre.
Et comme tous les matins, la Minute Éco et les sports, le Sénégalais Oumar Niass va jouer en Angleterre.
Mais d'abord, le journal.
Course vers la présidentielle américaine du 8 novembre. Fini les sondages, place au vote pour les primaires. Les habitants de l'Iowa ont commencé hier à départager les candidats au sein de chaque parti. On comptait 1681 bureaux dans ce petit état agricole du Midwest.
Côté républicain, c'est Ted Cruz, le vainqueur. Selon les premières projections des télévisions américaines, le sénateur du Texas, très conservateur, a remporté environ 28% des voix. Le milliardaire Donald Trump était pourtant en tête dans les sondages, mais hier, il a recueilli environ 24%. Juste derrière, on retrouvait le sénateur Marc Rubio avec 23%. Jeb Bush, fils et frère des présidents George H.W. Bush et George W. Bush, a rassemblé moins de 3% des voix. Avec moins de 2%, Mike Huckabee a annoncé qu'il se retirait de la course.
Et côté démocrate, le décompte des voix n'est pas encore terminé. Hillary Clinton et Bernie Sanders sont au coude à coude. Le sénateur du Vermont, âgé de 74 ans, clairement ancré à gauche, éreinte sans relâche l'ex-secrétaire d'État sur ses liens avec Wall Street.
Au Nigeria, le bilan de l'attaque de samedi à Dalori, près de Maiduguri, est révisé à la hausse. Les autorités parlent d'au moins 85 morts dans cette attaque attribuée aux djihadistes de Boko Haram. Eric Manirakiza.
D'une cinquantaine de morts, le bilan est passé à au moins 85 à Dalori, selon le docteur Haruna Mcheliya, commissaire à la santé pour l'État de Borno. Baluma Maloum, un rescapé, affirme avoir vu dans ce village au moins 20 cadavres tellement calcinés qu'ils ne sont pas identifiables et que 15 villageois sont toujours portés disparus. Moussa Adamou, membre des milices d'autodéfense, a parlé de plus de 100 morts, mais ce chiffre n'a pas pu être vérifié. Le président Muhammadu Buhari doit se rendre mercredi à Strasbourg, s'adresser au Parlement européen. Il se rendra ensuite le lendemain à Londres pour assister à une conférence de donateurs pour la Syrie et plaider pour plus de soutien au Nigeria et aux autres pays en première ligne dans la lutte contre le terrorisme.
Assassinat du général Robert Guéhi en Côte d'Ivoire. Le général Bruno Dogbo-Blé, ex-homme fort du régime de l'ancien président Laurent Gbagbo, a nié toute implication dans l'assassinat en 2002 de l'ex-chef de la junte. 19 personnes, dont le général Dogbo-Blé et Anselme Sekayapo, ancien responsable de la sécurité rapprochée de l'ancienne première dame Simone Gbagbo, sont jugées devant le tribunal à Abidjan. Accusé de complicité, le général Dogbo-Blé a répété « Je n'y étais pas », rapporte l'AFP. Pourtant, 5 co-accusés ont assuré l'avoir vu à la cathédrale où le général Guéhi avait été arrêté. L'épouse du général putschiste, des membres de sa famille, ont été tués le même jour.
Les autorités mauritaniennes ont saisi ce week-end une importante quantité de drogue, dont 2 tonnes de cocaïne. Des dizaines de trafiquants de diverses nationalités ont été arrêtés. Le point avec John Lindon.
Le campement où la saisie a été opérée samedi est situé au bord de l'Atlantique, à 200 km au nord-ouest de Nouakchott. Des dizaines de personnes, dont des Mauritaniens, des Algériens, des Maliens et des Sénégalais, ont été arrêtés. Des véhicules 4x4 utilisés par les trafiquants ont été saisis lors de cette opération. L'Afrique de l'Ouest est depuis des années une plaque tournante du trafic de cocaïne latino-américain vers l'Europe. Selon les spécialistes de l'ONU basés à Dakar, la drogue arrive par bateau dans le golfe de Guinée ou par avion en Mauritanie ou au Mali avant de rejoindre les rives de la Méditerranée en passant par le Sahel.
Congo-Brazzaville, Amnesty International appelle les autorités à libérer immédiatement et sans condition l'opposant Paulin Makaya. Le président d'Uni pour le Congo est détenu depuis plus de deux mois. À l'approche de la présidentielle du 20 mars, il est poursuivi pour avoir organisé et participé à une manifestation non autorisée le 20 octobre dernier, ainsi que pour détention illégale d'armes de guerre et complicité d'incendie d'édifices publics. Amnesty International estime que M. Makaya est un prisonnier politique.
Les casques bleus accusés d'exploitation sexuelle et d'abus sur mineurs en République centrafricaine. D'après l'ONU, les soldats onusiens impliqués seraient notamment du Bangladesh, de la République démocratique du Congo, du Maroc, du Niger et du Sénégal. Les crimes qui auraient été perpétrés par un total de 10 personnes, essentiellement en 2014, n'auraient été révélés qu'au cours des dernières semaines. Des jeunes filles récemment interviewées par l'ONU et la RCA ont affirmé avoir été victimes d'abus sexuels perpétrés par des soldats étrangers. Le contingent georgien de l'EUFOR a été mentionné. Les victimes étaient mineures. Accusant la RDC et le Niger de ne pas avoir pris les mesures nécessaires, l'ONU dit avoir lancé sa propre enquête dans les cas impliquant ces pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Pour parler de paix en Syrie, l'ONU a officiellement annoncé le début des discussions à Genève. L'opposition exige toujours des progrès humanitaires concrets avant d'entrer dans le dur de la négociation avec le régime de Damas. Le régime syrien a donné son accord de principe à l'envoi de convois humanitaires dans la ville assiégée de Madaya, près de Damas, où 46 personnes sont mortes de faim depuis décembre, ainsi que dans deux autres villes, Kafraïa et Foua, qui sont elles assiégées par les rebelles. Et c'est dans ce contexte qu'Amnesty International tire la sonnette d'alarme concernant les réfugiés syriens au Liban. Victimes d'exploitation et de harcèlement sexuel, elles sont plus vulnérables depuis la chute de l'aide internationale.
En France, depuis les attentats du 13 novembre, de nombreuses réformes ont été lancées par le gouvernement. Mais les plus hauts magistrats français ont déploré hier de voir la justice française affaiblie par ces projets législatifs. C'est une première, Maëlys Hegel.
Cette mise en garde survient juste avant l'examen demain, mercredi, par le Conseil des ministres d'un projet de réforme de la procédure pénale pour renforcer les moyens de lutte contre le terrorisme. Il s'agit notamment de la prolongation de 3 mois de l'état d'urgence qui renforce les pouvoirs de la police en permettant les assignations à résidence, les perquisitions et l'interdiction de rassemblement, le tout sans le contrôle d'un juge. Pour les juges français, ce régime relègue au second plan l'autorité judiciaire au profit de la justice administrative. Ils demandent donc un droit de regard afin de préserver leur rôle de garant des libertés individuelles. Ils dénoncent aussi la pénurie des moyens matériels et humains de la justice, ne pouvant plus remplir correctement ses missions. Cela a fait beaucoup de remous au sein de la justice française, car mercredi dernier, Christiane Taubira a démissionné de son poste de ministre de la Justice pour montrer son désaccord avec une autre réforme constitutionnelle sur la déchéance de la nationalité.
L'Organisation mondiale de la santé a déclaré hier à Genève que l'épidémie du virus Zika, soupçonnée de causer des malformations congénitales, constituait une urgence de santé publique de portée mondiale. À l'issue d'une réunion exceptionnelle de son comité d'urgence, l'OMS a jugé qu'un lien entre ce virus, transmis par un moustique, et une hausse exceptionnelle de cas de microencéphalie, formation congénitale, dont souffrent les enfants nés avec une petite tête. Feldeba Chaïb, porte-parole de l'OMS à Genève, donne des précisions.
Ils se sont réunis par téléconférence. Ils ont décidé de déclarer que les désordres neurologiques et les malformations des enfants et des adultes est une préoccupation sanitaire de portée internationale, mais pas Zika. Zika est un virus qui ressemble à la dengue, au chikungunya et à la fièvre jaune et qui sévit dans beaucoup, beaucoup de pays depuis son apparition en 1947. Il ne constitue pas une préoccupation majeure de santé publique. Ce qui constitue une préoccupation majeure, c'est d'essayer de comprendre est-ce qu'il y a un lien temporel et spatial entre le virus Zika et l'apparition de syndrome de Guillain-Barré et la microcéphalée. La microcéphalée étant une maladie qui touche les enfants qui naissent avec des petites têtes. Est-ce qu'il y a un lien? Pour l'instant, scientifiquement, le lien entre Zika et la microcéphalée et les autres désordres neurologiques n'est pas prouvé, d'où l'importance de déclarer cela comme une urgence sanitaire de portée internationale afin d'expéditer les recherches et la mobilisation internationale pour essayer de voir est-ce qu'il y a un lien et s'il y a ce lien, comment en sortir.
C'était Fadela Chaïb, porte-parole de l'OMS à Genève.
États-Unis, le secrétaire américain à la défense Ashton Carter doit révéler aujourd'hui le projet de budget du Pentagone pour 2017. Des financements supplémentaires pour lutter contre le groupe État islamique, des nouveaux mini-drones et un renforcement de la présence américaine en Europe de l'Est sont attendus.
Et violences policières aux États-Unis. Le ministère de la Justice a annoncé l'ouverture d'une vaste enquête fédérale sur la police de San Francisco. La mesure fait suite à la mort d'un noir âgé de 26 ans, abattu par des policiers.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
En Côte d'Ivoire, la Banque nationale d'investissement BNI a annoncé hier avoir injecté en 5 ans 895 milliards de francs CFA, 1,36 milliard d'euros dans les principaux secteurs de l'économie, se présentant comme un acteur de premier plan de la croissance du pays. Le Bénin et le Fonds international des Nations Unies pour le développement agricole ont convenu hier de financer un projet qui permettra de créer environ 3000 nouveaux emplois au profit des jeunes, des femmes et des hommes, et d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le sud du pays. Dans le sillage des cours du pétrole au plus bas, la devise angolaise, le Kwanza, a lourdement chuté en 2015, plongeant le deuxième producteur d'or noir du continent dans une crise financière qui menace la stabilité d'une société déjà rongée par la pauvreté. L'aéroport de Dubaï a confirmé hier sa position de numéro 1 mondial en termes de passagers internationaux, ravis en 2014 à l'aéroport londonien de Heathrow. Plus de 78 millions de passagers internationaux sont passés par Dubaï en 2015. Quelques 100 compagnies aériennes desservent à partir de Dubaï plus de 240 destinations à travers le monde.
La Minute Éco, merci Eric. Plein feu sur les stades, les sports avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Morgan.
En football, chapitre des transferts, le Sénégalais Oumar Niass va jouer en Angleterre.
Oui, l'attaquant du Lokomotiv Moscou a signé un contrat de 4 ans et demi à Everton pour une indemnité de transfert de 18 millions d'euros. L'international sénégalais de 25 ans, 4 sélections, évoluant en Russie depuis 2014 et il a inscrit 13 buts en 23 matchs cette saison.
L'Ivoirien Seydou Doumbia va à Newcastle, toujours en Angleterre.
Oui, le buteur ivoirien âgé de 28 ans, acheté par l'AS Rome en janvier 2015, a été prêté jusqu'à la fin de saison avec option d'achat à Newcastle. Le transfert est cependant soumis à l'obtention d'un visa de travail pour l'international aux 35 sélections. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 avec les éléphants.
FIFA élection, soutien de poids pour Gianni Infantino.
Oui, Gianni Infantino, le candidat de l'Europe à la présidence de la FIFA, a reçu le soutien de plusieurs poids lourds du football, dont l'entraîneur vedette José Mourinho lors d'un événement au stade Wembley ce lundi. Le secrétaire général de l'UEFA a présenté son plan pour les premiers 90 jours de sa présidence s'il est élu le 26 février à Zurich en présence du Special One, c'est l'autre nom de Mourinho, des anciens internationaux portugais Luis Figo, brésilien Roberto Carlos et l'espagnol Fernando Hierro, ou encore de l'ex-sélectionneur de l'Angleterre, Fabio Capello.
Affaire Neymar, le Barça maintient sa version. Le joueur, lui, sera entendu aujourd'hui.
Oui, le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, et son prédécesseur, Sandro Rosell, entendu ce lundi par un juge espagnol, ont maintenu leur version des faits et nié toute irrégularité dans le recrutement controversé en 2013 du Brésilien Neymar, lequel doit être entendu ce mardi. Le Barça avait chiffré le transfert de Neymar à 57,1 millions d'euros, dont 40 millions pour la famille du joueur et 17,1 millions pour le Santos FC, précédent club du Brésilien. Mais la justice espagnole, saisie par le fonds d'investissement brésilien DIS, qui détenait 40% des droits du joueur, a évalué le montant réel à au moins 83,3 millions d'euros. Et puis Morgan, pour terminer, la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Cleveland, Indiana, 111-106. Détroit, Brooklyn, 105-100. Dallas, Atlanta, 97-112. Memphis, New Orleans, 110-95. Washington Wizards, Oklahoma City Thunder, 98-114. Orlando, San Antonio, 92-107.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui, deuxième partie de notre émission. Actualité oblige, nous ouvrons sur les États-Unis. Le premier scrutin primaire de la campagne présidentielle s'est tenu hier soir dans l'État de l'Iowa. En réalité, il s'agit d'une série d'assemblées électorales, ce que l'on appelle ici un caucus. Pour nous aider à mieux comprendre ce processus, John Lindon a tendu le micro à notre collègue Idrissa Seydoussia, observateur de longue date de la vie politique américaine.
C'est là qu'a lieu la première consultation électorale de ces primaires de 2016.
Est-ce qu'il est possible de gagner la présidentielle américaine sans gagner Iowa?
Bien sûr. Surtout du côté démocrate, ça s'est vérifié que très souvent ceux qui gagnent l'Iowa finissent par gagner la présidence. Mais côté républicain, je crois que ça ne s'est jamais vérifié.
Concrètement, comment ces caucus se passent?
Bon, il y a une différence entre les démocrates et les républicains. De façon générale, les électeurs se rendent dans un endroit précis. Ça peut être une école, ça peut être une église, ça peut être un bâtiment administratif. Et là, ils votent. Chez les républicains, c'est très simple, ils déposent leur bulletin, c'est un vote secret, ils déposent leur bulletin, et c'est sur cette base proportionnelle que l'on va distribuer le nombre de délégués à chaque candidat. Chez les démocrates, c'est un peu plus compliqué. Ils vont dans un endroit, comme par exemple l'église, ils se réunissent là-bas. D'un côté, il y a les partisans, disons dans ce cas précis de Hillary Clinton, les partisans de Bernie Sanders et les partisans de O'Malley. Et chacun essaie d'obtenir 15%. Il y a aussi ceux qui ne sont pas déclarés pour tel ou tel candidat. Mais il faut, pour pouvoir passer, avoir au moins 15%. Et si on n'a pas 15%, alors en ce moment-là, on est éliminé d'office et vos partisans doivent nécessairement voter pour quelqu'un d'autre. Et c'est sur cette base que l'on va aussi distribuer le nombre de délégués à la convention du Parti démocrate.
L'analyse de notre collègue Idrissa Seydoudia.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Retour sur le 26e sommet de l'Union africaine qui s'est terminé ce week-end à Addis Abeba. Les chefs d'État ont renoncé à envoyer une force au Burundi et ont choisi de privilégier la discussion avec Bujumbura. C'est une grande déception pour les Burundais opposés au troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Idriss Fall a recueilli la réaction de Gordien Nyongenko, secrétaire exécutif du Forum pour la conscience et le développement, ou Foko.
C'est une réaction d'indignation parce que cette organisation panafricaine a raté une occasion historique pour pouvoir mettre à son actif une réalisation sanitaire en refusant la mission pour la protection du Burundi Makrabu. L'organisation panafricaine a raté une occasion historique. D'un autre côté, on n'a pas été surpris parce que la plupart des chefs d'État ont refusé de créer un antécédent qui pourra aller poursuivre parce que certains sont hantés par l'esprit de dépasser les mandats, de violer les constitutions. Comme vous le disiez, là, c'est... En plus, la décision qui a été prise est incompréhensible, voire inquiétante. Vouloir dire que pour secourir le peuple burundais qui est en train d'être tué, arrêté, exécuté, torturé, dire qu'ils doivent demander l'autorisation du bureau pour pouvoir secourir les citoyens burundais, c'est historique, c'est incompréhensible et ça dépasse toute logique.
Maintenant, quelle solution pour le Burundi, selon vous?
Pour le Burundi, je crois que et les Nations Unies et l'Union africaine qui étaient des institutions internationales garantes de la sécurité dans le monde, comme elles se montrent très réticentes à pouvoir secourir le peuple burundais, je pense que la première chose, c'est qu'il faut qu'ils assument la responsabilité de ce qui va arriver au peuple burundais. Il y a un génocide qui a commencé à petit feu. Tous les signaux montrent que si rien n'est fait d'un moment à l'autre, il peut y avoir un embrasement de tout le Burundi et aussi avec des conséquences au niveau de la sous-région et voire au niveau du monde entier. Dans ce cas, il faut que ces institutions puissent assumer la responsabilité.
Est-ce qu'il n'y a pas de solution de discussion soit à Arusha ou bien à l'intérieur du Burundi?
Ce n'est pas concevable ou compréhensif, c'est que à la fois le pouvoir de Bujumbura refuse une force de protection des citoyens qui sont en train d'être tués par les forces de sécurité, et d'un autre côté, il refuse le dialogue qui est la seule solution incontournable pour pouvoir rétablir l'ordre dans le pays. Plus de 9 mois, qu'il y a des déclarations, qu'il y a des démissions, qu'il y a des initiatives théorique. Et je pense que le moment des initiatives théoriques était terminé, qu'il faudrait passer par des actions concrètes.
Gordien Nyongiko, secrétaire exécutif du Forum pour la conscience et le développement, ou FOCODE, au Burundi. Les Togolais vont-ils payer bientôt la taxe d'habitation ? Le sujet fait débat au sein de la population depuis que des documents circulent sur la toile fixant les montants éventuels que devront verser les contribuables. Reportage de notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
Depuis quelques jours, des informations faisant état de l'application imminente de la taxe d'habitation par l'Office togolais des recettes OTR circulent au Togo. Et les discussions à chaque coin de rue y sont consacrées. Les points de vue de ces Togolais en disent long sur l'accueil réservé à la taxe d'habitation dans le pays.
Pour les taxes, c'est là qu'il y a le problème. Parce que dans le moment où nous sommes maintenant, là, ça ne va pas. Encore, ils nous disent de payer pour les taxes des maisons là. Comment on va faire pour payer? Toi, tu vas souffrir, aller chercher du matin jusqu'au soir, trouver 500 francs. Toi, tu vas entasser jusqu'à payer encore les taxes.
Auparavant, on payait les impôts par maison. Mais quand le président Yadema est venu, il a interrompu ça. Mais maintenant, je ne sais pas pourquoi ils ont encore investi ça pour payer encore pour les maisons. Je ne sais pas si c'est les locataires qui vont payer ou bien c'est les maisonniers qui vont payer.
C'est pas bon. De l'UMCHR et payer impôt à la fois, c'est pas bon.
Connaissant bien la situation socio-économique que nous avons dans notre pays, j'avoue que c'est une décision très difficile.
Pour les travailleurs togolais, la pilule serait dure à avaler compte tenu de la précarité de leur situation sociale, soutient-on à la synergie des travailleurs du Togo STT. Nadu Lawson Olukunle, coordinatrice de la STT.
En soi, la taxe n'est pas une mauvaise chose parce que dans tous les pays, c'est une taxe que tous les citoyens payent. Mais l'état dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, avant que cette taxe n'advienne, qui pose le problème. Parce que pour nous, à la STT par exemple, notre plate de revendication n'a pas encore été totalement vidée. Bien sûr, nous avons reçu des mesures qui peut-être ont un peu allégé la situation, mais nous coller une taxe automatiquement après, c'est comme si nous enfonçait encore un peu plus dans la situation dans laquelle nous nous trouvons avant que la mesure de 2015 ne vienne. Mais nous disons à la STT, payez la taxe d'habitation, oui. Mais finissez d'abord notre plate de revendication. Ensuite, quand le travailleur togolais aura les moyens de vivre, on va payer la taxe, il n'y a pas de problème. Mais si on n'a pas les moyens, ça va être difficile.
Des organisations de la société civile font observer que le Togo n'est pas encore à l'étape où cette disposition fiscale peut entrer en vigueur, étant donné que la taxe d'habitation est une taxe locale. Emmanuel Sogadi de la plateforme contre la vie chère au Togo.
La taxe sur l'habitation, c'est une taxe locale. Et on ne peut pas imposer cette taxe-là au niveau de l'OTR. Parce qu'on devait avoir les collectivités locales. Et lorsqu'il y a la décentralisation effective, pour que les gens puissent imposer et pouvoir faire des développements locaux. Donc le développement local, on en a besoin, évidemment. Mais si cette taxe-là qu'on introduit aujourd'hui est mobilisée au niveau du sommet, on n'est pas contre la taxe elle-même, mais on est contre le fait que ça s'est fait au niveau de l'OTR.
Nadu Lawson Olukunle de la STT estime qu'un travail préalable doit être fait.
Il faut que les gens sachent que voilà ce à quoi la taxe-là va servir. Pourquoi est-ce qu'on la paie? Et de deux, C'est une taxe totalement reversée aux collectivités locales. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas fait les élections locales. Les représentants officiels des collectivités locales ne sont pas mis en place. Et on nous parle de la taxe d'habitation, nous sommes dubitatifs.
Contacter la division communication de l'Office togolais des recettes dit être surprise par ces informations. La taxe d'habitation n'est pas encore d'actualité à l'OTR, indique-t-on, soulignant que ce ne sont que des rumeurs résultant d'une interprétation erronée de l'opération d'immatriculation des habitations qui est en cours actuellement dans le pays. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
En Guinée, vivre au-delà de 60 ans est très souvent synonyme de marginalisation et de vulnérabilité. Et les personnes âgées sont généralement à la charge de leur famille. Certaines sont obligées de faire une activité génératrice de revenus. De Conakry, la correspondance de Zakaria Camara.
Être personne âgée en Guinée rime avec inquiétude car cette couche sociale connaît une dégradation progressive de sa condition de vie. Dans la capitale, elles sont nombreuses à se plaindre. Certaines s'en sortent grâce au soutien de leurs enfants.
Nous avons été députés de la première législature. On a commencé à nous payer une pension. Puis après, paf, plus de pension.
À l'heure là, je ne travaille pas parce que j'ai eu le mot dédié. Ils viennent d'opérer. J'ai mes enfants qui sont en Europe, qu'on m'envoie des dépenses. J'ai mes concessions encore.
Moi, je ne fais absolument rien. Je suis à la maison. Moi aussi, j'ai été retraitée. J'ai ma retraite de la banque. Mais toujours, c'est minable, c'est petit. Parce que si tu ne gagnes pas un sac de riz chaque fin du mois, ça veut dire que tu n'as rien gagné. On souhaite que l'État, le gouvernement guinéen, nous viennent en aide à l'heure là.
L'État au secours, même son de cloche sur presque toutes les personnes du troisième âge. Un appel qui, pour certains, permettra de rehausser la pension jugée insignifiante. Moins de 30 dollars dans certains cas et non sans oublier le retard dans le paiement.
J'ai été témoin d'un cas, une femme qui venait de Koya, qui avait comme pension moins de 200 000 francs. Le transport aller-retour, il avait tellement marché qu'il était obligé d'emprunter de l'argent pour payer son transport.
Aboubakar Sompare, qui vient de témoigner, fut président de l'Assemblée nationale de Guinée. Actuellement, il est le président de l'Association des retraités de Guinée. Son ambition, améliorer les conditions de vie des personnes âgées.
Notre souci aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'État améliore les pensions des retraités proportionnellement au salaire qu'on paye aux travailleurs et que l'on crée des avantages pour les personnes de troisième âge, tels que la gratuité des transports publics, la gratuité de certains soins. D'une manière générale, il y a des maladies qui devraient être prises en charge par l'État, telles que le diabète.
En Guinée, tout individu âgé de 60 ans ou plus est considéré comme une personne âgée. En 2002, ils étaient un demi-million, soit 6% de la population guinéenne. Alpha Omar a 62 ans, chauffeur de taxi. Il dit ne pas compter sur l'apport du gouvernement.
Nous, on ne compte pas sur l'État guinéen. De tout. Ils ne pourront pas nous aider. Parce qu'on voit notre enfant finir d'étudier. Ils n'ont pas de boulot. Ce n'est pas nous les vieux qui vont avoir quelque chose pour attendre pour l'État.
À Conakry, les personnes âgées n'ont pas d'espace de repos, pas de loisirs, pas de moyens de transport dédiés. Samedi, le gouvernement a créé la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État et l'Institut national d'assurance maladie obligatoire. Ces deux institutions sont destinées à satisfaire les demandes d'accès à des services sociaux, demandes exprimées par, entre autres, les personnes du troisième âge. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Take away your things and go. You can't take back what you said. I know I've heard it all before.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson, Morgan Guiriec à la présentation. Excellente journée à tous. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet VOA Afrique.